Nous allons sans tarder ouvrir la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie d'être là tous ensemble. Et je suis heureux de pouvoir aussi partager la parole de Dieu. Je remercie les pasteurs pour l'invitation. Sans plus tarder, nous allons ouvrir dans 1 Samuel au chapitre 24. 1 Samuel chapitre 24. Le Seigneur a commencé à parler dans cette réunion, la présence de Dieu est là. Et je crois que pour plusieurs jeunes, ce soir, il y a un tournant. Il y a un tournant et le choix que tu vas faire ce soir, Dieu va parler d'une manière forte. Et le choix que tu vas faire va déterminer plusieurs années de ta vie de souffrance ou plusieurs années de ta vie dans le plan de Dieu. Il y a un enjeu et je prie que ce soir, tu sois attentif à ce que Dieu a déjà commencé à dire et ce qu'il va continuer à dire. Il y a un enjeu sur plusieurs. Et le Saint-Esprit va parler à ton cœur. Et je parle et je crois réellement que les choix que nous faisons à un moment donné peuvent déterminer plusieurs années, loin de Dieu, ou plusieurs années dans son plan. Nous ouvrons donc la Bible, 1 Samuel, chapitre 24, verset 3. Il est dit, Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. La Bible nous montre que Saül va poursuivre David. David est dans un combat. David, c'est l'image de toi et de moi. L'image de quelqu'un qui aime Dieu et qui a des combats. Et son combat, le combat visible, c'est que Saül, eh bien, veut le tuer. Saül vient contre lui. Mais il y a un combat plus profond, plus grand que cela. C'est le combat d'obéir à Dieu dans la foi, de ne pas toucher à Saül et de garder confiance en Dieu. Et le texte nous dit que nous voyons un combat qui est là. Saül va contre David. Mais David, voyez-vous, c'était un homme qui avait appris à obéir à Dieu. Et voici que, alors que Saül vient contre David, nous lisons au verset 19, je vais juste avant de lire le verset 19, Saül va aller contre lui et l'histoire nous raconte que, eh bien, Dieu va permettre que Saül soit livré entre les mains de David. Et c'est l'histoire d'une caverne qui est là et Saül va aller dans la caverne pour faire ses besoins et il ne sait pas que dans la caverne, il y a David et ses hommes. Et David a la possibilité de tuer Saül et il ne le fait pas. Mais il va quand même faire quelque chose pour montrer à Saül, eh bien, qu'il pouvait le tuer, mais qu'il ne l'a pas fait. Et nous lisons donc au verset 19. Tu manifestes aujourd'hui, c'est Saül qui parle, tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu règneras. Et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Voilà ce que va dire Saül. Et pour David, il y a une victoire qui est là. Il se dit, ça y est, il y a la victoire. Et au verset 11, on ne l'a pas lu, mais je le lis. David va dire ceci. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas là. La main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. David a obéi et Dieu a combattu pour David. Et voici qu'il remporte une victoire. Et il se dit dans son cœur certainement, enfin je vais pouvoir être libre. Combien d'entre nous, nous luttons? Et peut-être tu as pris des victoires sur le péché, des victoires dans des combats, des victoires où tu t'es confié en Dieu, où tu lui as fait confiance. Et tu te dis enfin, ça y est, je vais pouvoir souffler. Le problème, c'est que dans 1 Samuel, au chapitre 26 et au verset 2, nous lisons que le temps a un petit peu passé et malheureusement, le combat continue. Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Et alors qu'il croyait être sorti du combat, il se rend compte que le combat continue. Et ce soir, beaucoup de jeunes ont pris la victoire, mais ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, le combat continue. Il semble que l'ennemi ne soit pas encore mort, que je n'ai pas vraiment réussi à remporter la victoire. Et ça ne devait pas être facile pour David. Et là encore, eh bien, David va faire quelque chose. Et David va rester confiant dans l'Éternel. Il va rester dans l'obéissance, avec ce même cœur d'obéir à Dieu, de ne pas toucher à loin de l'Éternel, mais à rester ferme dans son obéissance, à se confier en Dieu, car Dieu avait parlé et avait dit à David, tu régneras. Dieu avait des promesses, j'aimerais te dire, Dieu a des promesses pour toi. Mais le combat est là, les promesses sont là, invisibles, mais le combat il est là, il est réel. Il est difficile, les ennemis sont là. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est plus dans la caverne, mais l'histoire nous raconte que cette fois, Saül va dormir à un endroit avec ses hommes, et puis, eh bien, David va descendre, et le texte dit que l'Éternel va les livrer à un profond sommeil, et là, David va prendre des armes. Et là, encore une fois, il pouvait le tuer, mais il ne va pas le faire. Et c'est un petit peu le même schéma que la première fois. On le lit au verset 23, 26, verset 23. David va dire, l'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Voilà qu'encore une fois, David va remporter la victoire. Il va être vainqueur. Mais je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin ce soir, et qu'on lise maintenant dans 1 Samuel au chapitre 30. Et nous allons lire les premiers versets. Les premiers versets, 1 Samuel, chapitre 30. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion. Les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi. Et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées. Je passe, verset 6, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Comment se fait-il, alors que David vient de remporter des victoires, nous sommes en train de lire. Qu'est-ce que David, là, on trouve David à un autre endroit, à Tsikla, qu'est-ce que David fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi David a perdu? Pourquoi les ennemis l'ont pillé? Pourquoi il vient de perdre une victoire? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce David, qui obéissait à Dieu, qui marchait avec Dieu, qui suivait les ordres de Dieu, qui remportait les victoires, Dieu combattait pour lui. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dieu, il semble que Dieu ne combatte plus pour lui. Il est pillé, ses propres hommes se révoltent contre lui. À l'intérieur de son âme, c'est le trouble, c'est la tristesse, c'est le désert, c'est le désespoir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de ça que je veux vous parler ce soir. Quel a été le problème de David? Et il y a un enjeu ce soir. Parce que si tu es en train de remporter des victoires, c'est bien. Mais Dieu veut te donner une victoire complète. Dieu désire que tu fasses une jeunesse, une génération qui reflète Christ, qui manifeste le royaume de Dieu. Une génération qui vit ce que la Bible dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur toi, car tu es sous la grâce. Une génération qui n'est pas juste en obéissant quelquefois, mais une génération ferme. C'est ce que Dieu veut faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous le voyons ensemble dans le chapitre 27, 1 Samuel 27, verset 1 au verset 3. Nous revenons donc en arrière, hein, nous suivons au niveau chronologique. C'est juste après ces deux grandes victoires, là, il se passe quelque chose qui va amener ensuite ce que nous avons lu tout à l'heure, le problème de David. Regardez bien, c'est un verset clé, David, verset 1er. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher, encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. On s'arrête là. Très important. Écoutez bien, dans ce verset premier, il est dit ceci. David n'a pas choisi, n'a pas décidé de continuer de combattre Saül. Il reste ferme dans une certaine obéissance. Il n'a pas dit, je vais maintenant tuer Saül, au moins c'est réglé. Donc, il est dans cette attitude d'obéir, mais voilà. Le problème, c'est que le texte dit, oui, il est fatigué. Oui, il veut pas frapper Saül, mais il est fatigué que Saül le poursuive. Alors, un raisonnement commence à venir dans son esprit. Un raisonnement vient s'installer. Là où il y avait la parole, tu régneras. Un raisonnement est en train de prendre la place de la parole. Et ce raisonnement, c'est tu périras par la main de Saül. Un raisonnement qui vient de l'enfer, des ténèbres. Et le piège du diable est bien plus puissant, plus grand que simplement amener David à désobéir. Le piège du diable est de l'amener à obéir en partie. À obéir dans une certaine mesure, mais pas entièrement. Le piège du diable est de lui dire « Oui, ne tue pas Saül parce qu'il ne faut pas tuer Saül. » Mais par contre, fuis dans le pays ennemi. Et il est là dans une situation, et c'est de ça que je veux vous parler. David est en train d'obéir sans faire confiance en Dieu. David est en train d'obéir dans une partie en perdant la confiance qu'il avait en Dieu. Il est en train finalement d'obéir religieusement, mais il n'y a plus la foi. Il n'y a plus cette assurance que Dieu va combattre pour lui. Que Dieu va se manifester. Et je voudrais te dire ce soir, la désobéissance amène à la mort, mais l'obéissance partielle amène à la mort. Parce que l'obéissance partielle, c'est de la désobéissance. Lorsque tu commences à obéir, mais que tu ne crois plus que Dieu va accomplir ses promesses, tu continues d'obéir, mais un raisonnement vient s'installer dans ton cœur, dans ton âme. Alors à ce moment-là, tu commences à perdre Dieu qui combat pour toi. Et il y a ce combat, il y a cette difficulté. Le raisonnement a remplacé la parole. La sainteté, l'obéissance qui était là entière. David, oui, il ne frappait pas Saül, mais il restait dans le pays d'Israël. Là où Dieu avait dit, tu régneras. Il ne bouge pas. Et voilà qu'il continue, oui, je ne vais pas vaincre, je ne vais pas tuer Saül. Mais maintenant, je m'en vais, je suis fatigué de lutter, fatigué de me battre. Je vais maintenant aller faire un petit séjour ailleurs. Je vais être tranquille. La foi qui est partie, c'est dangereux quand tu raisonnes sur ce que Dieu t'a dit. C'est dangereux quand tu commences à raisonner sur ce que Dieu t'a dit. La Bible dit de ne pas raisonner, la Bible dit de croire. Et la foi, c'est une ferme assurance et une démonstration. Et tant que David croyait, il y avait la démonstration. Il demeurait là dans le pays parce qu'il savait que l'Éternel était assez puissant pour le garder. Il savait que l'Éternel était fidèle à sa parole. C'est comme ça que Ève est tombée dans le jardin d'Éden. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas du fruit. Pourquoi Dieu a dit une chose? Pourquoi Ève va faire le contraire? Pendant un long moment, Ève obéit. Mais pourquoi à un moment donné, elle va désobéir? Parce que l'ennemi va commencer à injecter un raisonnement au lieu de la parole. La parole dit, tu ne toucheras pas. La parole est claire. Mais l'ennemi dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il amène un raisonnement de doute. Il commence à te faire raisonner sur la parole de Dieu. Quand tu commences à raisonner sur la parole de Dieu, tu es en train de partir. Et il aurait dû couper tout de suite. Oui, Dieu a dit. Alors c'est vrai qu'elle le dit, Dieu a dit. Mais l'ennemi va plus loin. Mais vous ne mourrez pas. Vos yeux s'ouvriront. Il injecte une pensée de doute, une pensée d'incrédulité. Ensuite, une pensée d'orgueil. Tu peux gagner sans Dieu. Tu peux avoir sans Dieu des raisonnements qui commencent à prendre la place de la parole. Tu ne mourras pas. Et dans tes combats ce soir, l'ennemi a essayé d'amener des raisonnements. C'est dangereux d'obéir avec des raisonnements. C'est dangereux de laisser les raisonnements. Et c'est comme ça qu'Ève est tombée, elle a écouté. Vous savez, parfois, Dieu nous parle et nous croyons ce qu'il nous dit. Nous obéissons. Mais notre obéissance, notre obéissance va toujours, toujours demander de la foi. Et il y a des moments où ton obéissance, elle va se confronter, par exemple, à ce que ta famille t'a appris. Elle va se confronter à toutes sortes de choses. Et c'est toi qui vas choisir. Est-ce que j'écoute ma famille? Est-ce que j'écoute ce que Dieu me dit? Est-ce que j'écoute le monde? Est-ce que j'écoute ce que Dieu me dit? Est-ce que j'écoute ma culture? Est-ce que j'écoute ce que Dieu me dit? À un moment donné, l'obéissance, eh bien, elle va plus loin que simplement obéir à les lois, à des commandements. Le Saint-Esprit veut nous amener dans un plan particulier, chacun d'entre nous. Et c'est important de le comprendre et de le saisir. Et voici que, oui, alors que Dieu combattait pour lui, eh bien, cette fois, il y a une faille. Il y a une faille, quelque chose qui se passe. Tu obéis, tu te gardes pur, c'est bien. Mais est-ce que tu crois que Dieu va glorifier son nom dans ton couple? Est-ce que tu crois qu'en te gardant pur, il y a une bénédiction? Est-ce que quand tu te gardes pur avec la foi, que tu vas être une lumière pour ce monde? Ou est-ce que tu obéis les dents serrées, te disant, oh, j'obéis parce qu'il faut obéir? Vous savez, Dieu va glorifier son nom avec des jeunes qui obéissent avec une pleine assurance. Qui savent pourquoi ils obéissent. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ils savent que c'est Dieu qui leur a dit. Ils savent qu'obéir au commandement, c'est plus que je fais ou je ne fais pas. Ils savent qu'obéir au commandement, c'est pour leur bonheur et pour qu'eux soient des sources de bénédiction. Et il faut que nous soyons une génération qui ne marche pas par la vue, mais par la foi. Que nous voyons au-delà de ce qui est visible. Nous sommes entourés de péchés, entourés d'incrédulité, entourés de doutes. Mais nous avons un Dieu vivant qui nous parle. Si nous nous tenons devant lui, il nous parle, il nous fortifie. Quand nous sommes fatigués, comme Moïse qui va devant le Pharaon et qui dit « Laisse mon peuple » et que Pharaon dit « Non, je ne le laisserai pas ». Il revient dans la présence de Dieu. Dieu le fortifie et lui dit « Retourne ». C'est important que tu comprennes qu'il y a plus qu'une obéissance forcée. Il y a l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Cette semaine, j'avais un jeune dans le bureau. Il ne paye pas de mine, il ne parle pas trop. Mais il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, écoute, je ne comprends pas tout, etc. Mais j'avance avec Dieu, je crois que Dieu a un plan pour ma vie. J'ai dit, tu as tout compris. Il est là. C'est ça. Quand rien n'est là, il semble tout est noir. Mon Dieu a parlé. Et ce qu'il dit s'accomplit. Je reste ferme dans ce que Dieu dit. Et alors qu'il est en train, donc il veut obéir, ne toujours pas à tuer Saül, mais il perd la foi, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à essayer d'obéir par la chair. C'est-à-dire, il veut toujours, il ne veut pas tuer Saül, mais il fait son propre plan, propre pensée. Et donc il commence maintenant, avant Dieu combattait pour lui, maintenant c'est lui qui combat tout seul. Et donc, il choisit de fuir dans le pays pour éviter Saül. Alors qu'au départ, il fallait simplement croire la parole et Dieu allait le garder. On le verra tout à l'heure. Quand David croyait, il était dans le repos. Quand David combat, il est épuisé et fatigué. Quand David croyait, il avait la victoire. Quand David combat, il perd la bataille. Et tu peux vivre ça dans ta vie de prière. Tu peux être là, combattre, combattre, combattre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut que tu crois. Manque la foi. Fais confiance. Accepte ce que Dieu te dit. Pourquoi on a toutes ces réunions? Vous savez pourquoi? Pour que Dieu parle. Pour que nous prenions la parole. Pour que nous croyions la parole. Et pour que nous agissions avec la parole. Donc quand Dieu parle, ne prends pas la parole, la mets sur l'étagère de ta vie. Mais quand Dieu parle, mets la parole dans tes pensées. Mets la parole dans ta bouche. Mets la parole dans tes actes. Et c'est comme ça qu'on sera une génération forte. On n'aura pas la parole seulement à l'église, mais dans notre chambre tout seul, dans le lycée, le collège ou la fac, on sera là avec la parole. Je sais qui je suis. Non pas de l'assurance humaine, mais l'assurance dans ce que Dieu dit. L'assurance en lui. Face au péché, tu combats, tu luttes. Tu combats alors qu'en fait, il faut que tu croies qu'à la croix du calvaire, Christ a tout accompli. Et quand tu crois vraiment, quand tu crois de tout ton cœur et tu commences à dire, ben oui Seigneur, tu as dépouillé les dominations, les autorités, tu les as livrées en spectacle. Tu t'appropries la parole, tu crois la parole, tu te nourris de la parole. La parole, le Saint-Esprit la rend vivante et tu rentres dans la victoire. Dieu combat pour toi. Mais quand tu as le péché qui est là, t'entends que oui, Christ a tout accompli, mais tu laisses le raisonnement te dire, tu t'en sortiras pas. Tu ne peux pas en même temps avoir en toi la parole et le raisonnement. Tu dois choisir. Soit je crois la parole, je mets la parole dans mes pensées, ma bouche et mes actes, soit je crois les raisonnements. Et c'est un cercle vicieux parce que tu crois le raisonnement, tu crois que tu ne t'en sors pas et la réalité c'est que tu ne t'en sors pas. Mais quand je commence à croire ce que Dieu dit, le Saint-Esprit commence à agir et à se manifester face au péché. quand ton âme est attaquée, quand ton âme est dans la tristesse, et que tu luttes pour changer cela, mais tu ne peux pas changer cela. Comment tu veux faire? Mais il faut venir au pied du Seigneur, apporter, déverser son cœur. Dire, Seigneur, ton esprit, c'est un esprit d'amour, de joie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je te fais confiance. Et Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui est en moi. Et tu commences à t'entretenir, à prier en esprit. Tu ne laisses pas la tristesse rester, mais tu commences à croire ce que Dieu dit. Face aux fardeaux, blessures, face aux erreurs, aux échecs, quelle que soit la lutte, Dieu veut combattre pour toi. Tes études, tu peux rester dans le repos. Croire que le Seigneur combat. Bien sûr, il faut faire ta part, il faut travailler. Ou alors, tu peux t'agiter, t'inquiéter. Rester dans l'inquiétude, l'agitation. Et là, c'est difficile. À faire tes propres efforts. Tu combats, tu t'épuises, tu es fatigué, alors que Dieu veut combattre pour toi. Cherche le royaume de Dieu en premier, sa justice. Et toutes les choses, entre parenthèses, les études, te seront données. Ce dont tu as besoin. Quand tu commences à sortir d'une pleine obéissance, tu ouvres la porte à la crainte et à la peur. Tu commences à laisser la crainte s'installer. Commence à lutter, la peur qui vient. Et à qui, je veux dire aussi, homme seul. La solitude, tu te sens seul, tu te sens abandonné de Dieu alors que le Saint-Esprit est en toi. Les mensonges de l'ennemi commencent à prendre place. En train de t'associer, sans que tu sois conscient, tu t'associes à la peur, à la crainte. Ces choses commencent à prendre place en toi. Tu te sens seul. Maintenant, quand tu pries, tu as l'impression que Dieu est lointain, que Dieu ne t'écoute pas, qu'il est loin. Cette impression-là, il n'y a plus la manifestation de la présence de Dieu. Parce qu'à un moment donné, j'ai voulu continuer à obéir, mais j'ai laissé un manque de foi, de confiance. J'ai voulu reprendre les choses en main. Parce que je me disais, mais Dieu, à un moment donné, Saül va m'avoir. À un moment donné, il y a comme le raisonnement prend le dessus sur la parole. Et ce soir, Dieu veut que la parole reprenne la place. Dieu a parlé à plusieurs. Dieu t'a parlé. Mais aujourd'hui, les raisonnements ont pris la place. Et tu as besoin de croire tout simplement. Tu as besoin de faire confiance en Dieu. Et le texte dit, quand il a amené à Tsiklag, Tsiklag veut dire enroulement sinueux. Il se retrouve dans une ville, enroulement, vous savez, ça fait penser à quoi? À tourner en rond. Lorsque tu commences, à plus croire, t'obéis, mais tu crois plus, tu commences à tourner en rond. Toutes les choses deviennent lourdes, tu n'avances plus, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus la passion des âmes, il n'y a plus l'amour des âmes, il n'y a plus les portes ouvertes dans ta vie, il y a la sécheresse, il y a la routine, toujours les mêmes choses, je garde la vie d'église, je garde la communion, mais la mort est venue, la mort s'installe. Je tourne en rond, vous savez, ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël dans le désert, quand il y avait les espions qui ont vu le pays promis, ils sont revenus. Et puis, il y en a deux qui ont dit, allons-y, on va y aller. Puis les autres, ils ont dit, les ennemis sont trop grands, on n'y arrivera pas. En fait, à ce moment-là, l'incrédulité a pris la place. Et alors Dieu a dit, ok, vous allez retourner dans le désert. Tourne en rond, ce que je suis en train de dire, tourne en rond. Alors vous savez ce qu'il a fait, le peuple a dit, ok, on va y aller, on va combattre. Alors ils y sont allés, ils ont combattu, ils ont pris une défaite, parce qu'il n'y avait pas la foi. Il n'y avait pas la foi obéissante, il n'y avait pas l'obéissance de la foi. Il y a un moment donné, écoutez bien, un moment donné où c'est trop tard, pour plusieurs années. C'est important de comprendre ça. Il y a des moments clés qu'il ne faut pas rater. Parce que si tu rates ta vie sentimentale, tu gâches ta vie. Quand Dieu te dit d'attendre, si Dieu te dit d'attendre au travers du serviteur de Dieu et que toi tu vois juste que c'est le serviteur de Dieu, que tu ne crois pas que c'est Dieu, tu vas vouloir obéir pour faire plaisir. Mais parce que tu n'as pas cette foi, tu vas finir par tomber. C'est important de comprendre ça. Quand Dieu te dit d'obéir, tu dois réaliser que c'est Dieu qui te le demande. Et vous savez comment Dieu parle? Il parle, c'est vrai, par les serviteurs, par la parole. Il parle par le Saint-Esprit qui est en nous. C'est important. C'est important. Sinueux. Tourne en rond. Laisse les raisonnements. Et viens à la parole. Et sinueux, ça parle aussi d'un chemin plus long. savez, Dieu, il a un plan pour votre vie, tu ne peux même pas imaginer. La Bible dit qu'il fait au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Mais si tu commences à désobéir, le chemin va être plus long. Ce qui veut dire que peut-être ce que Dieu avait prévu, tu ne pourras pas arriver à vivre tout ce que Dieu avait prévu. Parce que quand le chemin est plus long, on a une vie. Et la vie, elle s'arrête à 70, 80, 90 ans, pour les meilleurs. Mais tu peux t'arrêter avant? Si le Seigneur a prévu des choses, mais que tu perds 30 ans parce que tu n'as pas obéi, comment tu vas faire? Il y a un enjeu ce soir. Je le reconnais quand Dieu parle de différentes manières. C'est que Dieu veut faire quelque chose. Il faut que tu entends, je prie que tu entends la voix de Dieu ce soir. Et que tu commences à obéir, à comprendre que c'est Dieu qui te parle. Dans le domaine de ta vie, là, où tu es en lutte, Dieu t'a parlé, plein de raisonnements sont là, plein de, même des conseils, parfois les conseils de tes propres parents qui vont contre Dieu. Conseils des gens qui sont autour de toi. Mais mon ami, jeune homme, jeune fille, crois ce que Dieu dit. Parce qu'au début, vous savez, un ami à moi disait ça, j'ai bien aimé. Il disait ceci, avec Satan, au début tu gagnes, à la fin tu perds. Avec Dieu, tu as l'impression de perdre au début et après tu gagnes. Vous avez compris? Avec Satan, au début, tu as l'impression de gagner. Et puis une fois que tu crois que tu as gagné, bah, il te détruit. Avec Dieu, au début, tu as l'impression de perdre. Parce qu'il y a la foi. Parce que tu ne vois pas. Mais si tu restes, après tu vois que tu gagnes. Parce que la Bible dit que Dieu, il rémunère la foi. Il est le rémunérateur. Alléluia. Et donc, ça, c'est les conséquences. Mais regardez, encore pire, 1 Samuel 28:1. Ça va plus loin. L'histoire nous raconte que donc David, il est dans le pays ennemi, il fait des excursions, il joue un double jeu. Il frappe les ennemis, mais il tue tout le monde pour que personne vienne le vendre. Enfin, il y a tout un jeu qui est là. Et voici qu'à un moment donné, Achish lui dit, on va combattre contre Israël, on va combattre contre Saül. Viens avec nous. Et voilà que David, on le lit ensemble, 1 Samuel 28, verset 1er. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Achish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Achish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Achish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne, etc. Vous savez ce qui est en train de se passer là? David, rappelez-vous, il voulait obéir, il ne voulait pas toucher à Saül. Eh bien, en obéissant partiellement, il va se retrouver contre Saül. Il va se retrouver dans l'armée ennemie contre Saül. Et je voudrais te dire ce soir, que si tu obéis partiellement, tu finiras par désobéir. Si tu obéis partiellement, tu finiras par faire ce que tu ne voulais pas faire. Tu iras là où tu ne pensais jamais aller. C'est ce qui s'est passé pour lui, les choses sont en train de lui échapper. Et alors qu'il disait, oui, non, je ne toucherai pas à Saül, parce qu'il n'a pas cru, parce qu'il n'avait pas la foi, il va se retrouver contre Saül. Est-ce que nous comprenons? C'est tellement important de comprendre cela. Nous ne devons pas douter de Dieu. Doute de qui tu veux, mais ne doute pas de Dieu. Quand Dieu te parle, quand Dieu dit, David, je vais te donner la royauté, Dieu va donner la royauté à David. Mais il nous faut toujours, tous, chacun, il nous faut passer par un moment où nous croyons Dieu véritablement. L'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Et c'est ça mon message. C'est tu obéis, c'est bien. Y a-t-il la foi dans ton obéissance? Est-ce que tu crois? Parce que Dieu veut bénir ta vie? Parce que Dieu veut t'ouvrir des portes? Parce que Dieu veut se servir de toi comme une lumière? La foi. L'obéissance de la foi. Et puis, je pense à ces exemples. Vous savez, j'ai pris des exemples pratiques. Tu ne vas pas en boîte, c'est bien. Tu ne cherches pas les filles, c'est bien. Mais si dans ton cœur, il y a la séduction, tu finiras avec les filles. Est-ce que nous comprenons? C'est bien de ne pas aller avec les filles, les gars, de vraiment se garder pur, de ne pas aller dans certains endroits. Mais si à l'intérieur, il y a la séduction, tu finiras comme ça. Et Dieu veut traiter les choses profondes en nous. Il veut nous amener à la ressemblance de Christ. Vous savez, les grands hommes de Dieu, ce sont des gens où Dieu a fait une œuvre profonde en eux. C'est juste ça. Tout ce que tu peux faire pour Dieu est le fruit de ce que Dieu peut faire en toi. Tout ce que Dieu fait en toi permet ensuite à Christ de se manifester. Est-ce que tu es prêt à croire cela? C'est la mort et la résurrection. Je suis mort avec lui et la vie de Dieu se manifeste. Et je pense à ces exemples. Tu sers à l'église, tu veux servir Dieu, c'est bien. Est-ce que tu le fais dans la foi? Ou est-ce que tu le fais en disant, lui, il ne sert pas Dieu, lui, il ne fait pas, et puis les autres, c'est toujours les mêmes, et puis, etc. Est-ce que tu le fais dans la foi? Est-ce que tu es conscient que Dieu a une rémunération pour toi? Est-ce que tu es conscient que, en fait, c'est une position extraordinaire de servir Dieu? C'est un privilège, c'est un honneur. Nous sommes des témoins, nous sommes des ambassadeurs. Nous ne sommes pas les ambassadeurs de France, nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous sommes sur la terre pour représenter le royaume. Est-ce que nous réalisons ça? Est-ce que nous croyons cela? Si tu crois ça, tu n'auras plus honte quand tu vas témoigner. Pourquoi on a honte quand on témoigne? Parce qu'on obéit sans la foi. Manque de foi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de venir dans la présence de Dieu pour découvrir ce que Dieu est, ce que Dieu dit de nous, pour l'accepter, pour se nourrir. Et à force de se nourrir, eh bien oui, ça prend place en toi. Et tu manifestes la compassion. Tu manifestes le royaume de Dieu. Tu dis, j'obéis, je pardonne. C'est bien. Je pardonne. Je lui pardonne. Parce que ça fait bien. Tu ne veux pas dire, je ne lui pardonne pas. Je lui pardonne. Mais quelles sont les pensées qui sont là? Si tu es tout le temps en train de penser, bah, tu es dans je pardonne, mais je n'oublie pas. Le pardon, le vrai pardon, c'est un pardon où il y a la foi. Dieu me donne la capacité. Et quand il y a le pardon, je peux prier pour la personne. Ce n'est pas le pardon par tes propres forces. C'est le pardon avec la foi. Dieu m'a pardonné, me rend capable de pardonner. Dieu m'a aimé, me rend capable d'aimer. Des fois, des trucs tellement durs, on ne peut pas. Mais Dieu te dit, tu n'as pas besoin de pouvoir, tu as juste besoin de vouloir. Si tu veux, Dieu dit, moi je peux. La foi, c'est bien, tu pardonnes, c'est bien. Mais crois. Crois que Dieu va te bénir. Crois que tu vas être une source de bénédiction. Crois que tu relâches la personne. Crois ce que Dieu dit. C'est tellement important. Tu prends la décision de prier, c'est bien d'obéir. Mais est-ce que dans ton cœur, il y a ce détachement du monde où tu pries sur un élan. Allez, je vais prier 5 heures. Et puis au bout de 3 jours, il n'y a même plus 5 minutes. En fait, ça ne sert à rien de faire des grandes décisions. Prends une petite décision avec foi. Crois. Fais confiance à Dieu. Et tu vas voir Dieu te parler dans ton temps de prière. Te faire du bien. Amen. On voit ensemble la solution avant de terminer ces moments. Écoutez bien, c'est super. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est merveilleux. 1 Samuel chapitre 30, verset 1er au verset 4. Alors, attendez, est-ce que c'est cela? Non, ce n'est pas le bon texte, excusez-moi, j'ai pris la mauvaise référence, parfois ça arrive. Voilà, le texte que je voulais vous présenter, c'était ce moment où la Bible dit, alors que donc David est à Tsiklag, il va s'appuyer sur l'Éternel. Et puis, en s'appuyant sur l'Éternel, Dieu va tout lui rendre, Dieu va lui faire grâce. C'est-à-dire, je voudrais dire ce soir, peut-être il y a des jeunes, ils sont dans la désobéissance, ou alors ils obéissent sans la foi. J'aimerais te dire ce soir, ce n'est pas trop tard pour toi. Mais là où je voudrais mettre le point important ce soir, c'est que quand vous lisez le chapitre 30-31, ah ben c'est le chapitre 31, voilà, c'était ça le problème. Dans 1 Samuel 31, verset 1 à 4, « Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gibboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et perce-moi avec, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte, et Saül prit son épée et se jeta dessus. Pourquoi je lis ce texte? Parce qu'en réalité, dans ce texte, nous voyons que Dieu avait tout prévu pour que David règne. Qu'il n'avait pas besoin de fuir parce que Dieu combattait pour lui. Bien sûr que la volonté de Dieu, au départ, ce n'était pas que Saül meure, c'est sûr. Dieu aurait voulu que Saül se repente, mais par sa désobéissance, Eh bien, il a terminé comme cela. Mais le point est celui-ci, c'est que Dieu avait prévu de secourir David de la main de Saül. Dieu avait tout prévu, tout était accompli. Il n'avait pas besoin de fuir, tout était prévu. Il fallait juste attendre un peu et Dieu allait combattre pour lui la victoire finale. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Il n'avait pas besoin de fuir. Toute cette fuite lui a entraîné des problèmes, des tracas, des difficultés, des larmes. Alors que Dieu avait tout prévu. Je voudrais te dire ce soir, Christ a tout accompli sur la croix. Contre le péché, contre les fardeaux, les blessures, les choses qui sont là, il a tout pris à la croix. Il a tout porté. Contre les maladies, même contre Satan et ses démons. Autrement dit, à la croix, eh bien, il t'a ouvert l'accès au plan de Dieu pour ta vie. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Alors s'il te plaît, entends la voix de Dieu ce soir et obéis avec foi. Fais confiance. Obéis, c'est bien, mais crois que Dieu va rémunérer ton obéissance. Crois que Dieu va se lever. Crois que Dieu va se glorifier. Et tu vas voir Dieu agir. Et quand tu vas voir Dieu agir, là tu vas grandir, tu vas te fortifier. Et quand tu vas parler aux gens, tu ne vas pas parler de quelque chose qu'on t'a dit, tu vas parler de quelque chose que tu as vécu. Et les gens verront que c'est vivant. Les gens verront que ce n'est pas quelque chose que tu as appris, qu'on t'a enseigné, c'est quelque chose que tu as vécu. Et les gens diront, je veux ce que tu as. Et tu vas commencer à être un instrument dans les mains de Dieu. Il y a un enjeu ce soir. On va baisser nos têtes ensemble. David ne savait pas que la victoire totale était presque là. Dieu avait déjà écrit l'histoire. Dieu combattait pour lui contre ceux qui étaient, contre Saül, contre l'ennemi. Ce soir, Dieu veut parler, l'Esprit de Dieu est là. Tu peux éviter de tourner en rond, tu peux éviter un chemin tortueux. Je crois qu'il y a un enjeu pour plusieurs jeunes ce soir. Il y a un enjeu vraiment ce soir. Et l'enjeu n'est pas d'obéir, l'enjeu est de croire dans l'obéissance. Ce n'est pas seulement obéir, mais c'est croire, faire confiance. Faire confiance en Dieu. N'agis pas par la chair, mais laisse Dieu combattre pour toi. Laisse-le combattre pour toi. Fais-lui confiance. Quel est le combat? Quelle est la chose dans laquelle tu es en train de lutter? Dieu te parle là, dans ce domaine. Tu es en train de lutter. Tu t'épuises. Eh bien, la croix du calvaire. Dieu a tout. Jésus a tout pris, tout accompli. Commence à croire ce qu'il a fait. Commence à placer ta confiance en lui. Tu peux éviter ce soir des temps de souffrance. Ce soir, Dieu parle par la parole. Mais si tu résistes, Dieu te parlera par la souffrance. Et il ne le veut pas. Il vient vers toi. Il vient vers toi. Tu peux avoir un malaise dans ton cœur parce que tu es en train de prendre un mauvais chemin et tu ne reconnais pas que ce malaise vient de Dieu. Tu es travaillé dans ton cœur. Même si tu obéis, tu es travaillé parce que Dieu veut la foi. Il veut que tu lui fasses confiance. Il te dit oui, oui mon enfant, c'est bien que tu obéis, mais je voudrais que tu croies que je veux bénir ta vie. Je veux te donner. Tu obéis parce que le pasteur t'a dit, c'est bien, mais je voudrais que tu comprennes que c'est moi qui te parle. Peut-être que quelqu'un t'a dit un conseil, tu sais, au fond de toi, que c'est Dieu qui te parle. La Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix car il se confie en lui. Obéis. Et plusieurs, le cœur n'y était pas ce soir, mais le Saint-Esprit agit. Ton cœur n'y était pas, mais là, le Seigneur fait une œuvre dans ton cœur. Il est en train de susciter la foi. Il est en train de mettre la vie dans ton obéissance. Parce qu'il y avait la mort dans ton obéissance. Il est en train de mettre la vie dans ton obéissance. Et tu vas voir, en poursuivant dans la foi, Dieu va te parler, t'encourager, préciser. Il va t'encourager dans ce sens. L'obéissance de cœur, l'obéissance est aussi quelque chose de radical. Je voudrais te dire ce soir. Que la démonstration de l'obéissance de cœur, c'est d'être radical, il te faut couper. Il te faut aussi peut-être te consacrer, il te faut agir avec foi, de manière radicale. Le Seigneur te dit, ne bouge plus, ne fuis pas, n'agis pas par la chair, ta lutte, essaye de t'amener à chercher une solution à droite et à gauche. Mais ne bouge pas, n'essaye pas d'accomplir par toi-même ce que Dieu a dit, mais reste dans sa présence, fidèle. Fais-lui confiance. Quelques-uns d'entre vous sont comme David qui est déjà tombé à Tsiklag. Plusieurs ont désobéi ou ont déjà les conséquences. Eh bien, je voudrais te dire ce soir que Dieu a secouru David à Tsiklag. Il s'est appuyé sur l'Éternel. Dieu lui a tout rendu. Dieu veut tout te rendre ce soir. Je terminerai maintenant encore à... Je voudrais vous dire tout ce que le Seigneur a prévu si tu obéis. Aussi une personne, ce soir, tu veux obéir, mais Dieu te parle sur des choses qui te semblent petites, pas importantes, des choses qui ne semblent concerner que toi. Tu ne comprends pas, tu ne reconnais pas que c'est Dieu. Et que si Dieu te demande quelque chose qui te paraît petit, peut-être quelque chose de plus exigeant, c'est parce qu'il a un plan plus grand pour toi. Si tu obéis de cœur ce soir, je voudrais que vous écoutiez. Des portes vont s'ouvrir dans ta vie. Si tu obéis de cœur ce soir, dans quelque temps, tu connaîtras ce qu'on appelle le plaisir de prier. Aujourd'hui, tu pries, mais tu luttes. Mais si tu commences à obéir de cœur, le Saint-Esprit va transformer. Il va y avoir le renouvellement de l'intelligence, tes sentiments vont être renouvelés et tu vas commencer à même prendre plaisir à prier, à te tenir devant Dieu. Si tu décides ce soir d'obéir, tu vas avoir un poids, un impact spirituel. Il y aura une autorité spirituelle qui te sera donnée à cause de ton obéissance. Si tu décides d'obéir, tu permets à Dieu de te bénir. Le Deutéronome en parle. Si tu obéis, il y a la bénédiction. Dieu va bénir ta vie et tu seras une source de bénédiction. Si tu obéis ce soir, il n'y aura plus les ennemis intérieurs. Quand David a désobéi, ses propres hommes sont retournés contre lui. Aujourd'hui, il y a des ennemis intérieurs, des craintes, des angoisses, de culpabilité, de condamnation, de toutes sortes de choses. Les ennemis intérieurs vont disparaître. Si tu obéis de cœur ce soir, tu ne vas plus tourner en rond, mais tu vas avancer. Si tu obéis de cœur ce soir, tu vas voir Dieu combattre pour toi là où toi tu n'y arrives pas. Si tu obéis ce soir, dans quelque temps, tu auras le feu vert de Dieu. Tu sauras que c'est le moment. Si tu obéis ce soir, tu vas te détacher des choses du monde et t'attacher à Christ. Ça va être l'œuvre du Saint-Esprit. Tu vas voir Dieu agir dans ton cœur. Les choses du monde vont perdre leur attrait. Si tu obéis ce soir, ça va permettre au Saint-Esprit de t'enseigner d'autres choses. Parce que tant que tu n'obéis pas, il ne peut pas t'enseigner autre chose. Mais ça va permettre à Dieu de t'enseigner d'autres choses et de te faire entrer dans ce qu'il a pour toi. Prions le Seigneur maintenant. Et ce soir, juste avant de prier, si tu désires obéir de tout ton cœur, je te demande de te lever à ta place. Si tu décides de te positionner et dire « Seigneur, je décide, peut-être certains sont déjà dans l'obéissance, eh bien tu continues cette décision. Tu dis, je reste dans l'obéissance, mais d'autres obéissent sans la foi. Tu décides ce soir. Dieu cherche la foi dans ton obéissance. Tu dis, Seigneur, je vais croire. Je vais obéir avec foi. Alors si ton désir, simplement lève-toi, je voudrais prier. Et puis ceux qui ne se lèvent pas, bien, priez avec moi. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons parce que tu viens ce soir par ta parole et par ton esprit, tu nous parles. Tu veux faire de nous une génération qui fait une différence, qui porte le nom de Dieu et qui vive la parole de Dieu, qui voit la gloire de Dieu. Mais il n'y a pas de gloire sans une obéissance de cœur. Il n'y a pas de gloire sans la foi. Seigneur, ce soir tu parles et tu agis. C'est là notre prière ensemble. Que Seigneur, il y ait la foi. Tu rappelles dans les cœurs les promesses. Tu rappelles les paroles. Et tu donnes vie à ces paroles, tu donnes vie à ces promesses. Et tu nous donnes, Seigneur, maintenant, de regarder dans l'invisible. Seigneur, de regarder à toi. Seigneur, nous acceptons de te faire confiance. Nous refusons d'obéir par la chair. Nous refusons, Seigneur, de bouger par nous-mêmes. Nous te faisons confiance. Seigneur, parle ce soir et ramène de la mort, Seigneur, celui qui s'est égaré. Tu l'amènes dans la vie et tu crées la foi. Tu permets, Seigneur, de nourrir cette foi. Merci, Seigneur, de le faire. Merci de te glorifier. À toi toute la gloire.